mouillée.
Jusqu'au bout.
Nous sommes en l'an 4719 du calendrier chinois. Le Groenland se fait liposucer sa glace par les vagues de chaleur successives. Pendant que le niveau des océans monte, la revue Ancrage équipe et déploie cette bouée de sauvetage littéraire préventive pour sauvegarder une part d'oralité de la côte orientale.
Bonjour Georgette, ça va bien?
Yeah.
Bienvenue à Mouiller jusqu'au mot. Moi, c'est Joël Boilard, pour une fois que je pense à le dire sans qu'on me le rappelle à l'oreille. Aujourd'hui, c'est l'épisode 18 déjà, ou enfin, dépendamment de quel côté vous vous trouvez, de notre podcast. Et aujourd'hui, on parle d'un numéro assez spécial qui s'appelle « Cri de terrestre ». Et j'ai un aveu très...
J'explique...
Je vais faire un aveu moi-même.
Vous n'aurez pas besoin de... C'est ta stratégie.
Prévenir.
OK.
Prévenir pour mieux guérir.
Moi, oui, je comprends.
Voilà. Okay, donc, j'aurais un aveu à faire...
Noyer jusqu'au bout.
C'est un gros aveu que j'ai à faire ici. Et d'ailleurs, je risque de m'attirer les foudres d'à peu près tout le monde.
Ici présent.
À tout le moins. Donc, ce que c'est, ce numéro-là, c'est le 50e anniversaire de la parution de Cri de terre de Raymond Guy Leblanc.
Oui.
Et le concept ou la contrainte, parce que, comme Paul le mentionne dans le liminaire, Ancrage, nous aimons vraiment offrir des contraintes aux gens. Celle-ci était plus simple un peu, c'était d'aller chercher un vers du recueil de Cri de terre de Raymond Guy Leblanc et de l'inclure ou l'intégrer à une création originale, donc Cri de terrestre. Et c'est là qu'entre en jeu mon fameux aveu. Je suis tout à fait conscient de la place qu'occupe ce recueil-là dans la littérature acadienne et dans le parcours et aussi, peut-être même plus important encore, dans le milieu de l'édition. Ça a comme aidé à lancer l'édition francophone, au moins en Acadie, avec, pas Ancrage tout de suite, là, mais il y a eu les Éloires à un moment donné, édition personnage, Bouton d'or, tout ça qui ont commencé. Donc, je suis très conscient de l'impact qu'a eu le recueil sur tout le monde. Et mon aveu ici entre en jeu. Je n'ai jamais lu Cri de terre d'un bout à l'autre. Je me suis fait lire Cri de terre dans certains cours universitaires. Donc, je connais l'impact, un peu les thématiques. Et là, si vous pensez que j'essaie de me justifier et de me trouver une excuse, c'est exactement ce que je suis en train de faire.
Ouais. C'est bien, tu le dis, au moins ça.
Poème pour absent. Il n'y a presque personne pour écouter le poète. Un simple rideau éclairé en jaune, quelques bougies tremblantes, et tout ce silence, jusque dans les bulles des verres de bière, entre les espaces des chaises vides. Une gêne d'être là, une gêne de l'absence des autres. Il n'a pas le choix. Il doit faire ses premiers pas. Le vide lui donne des crampes aux lèvres, lui pique les yeux, comme le vent vif sous zéro. Ses mots se roulent en boules de papier, son regard se plie, ses vers font le chemin à genoux. Il récite à grande vitesse, avec la sueur dans les yeux. Il est au bord du gouffre, retient la folie qui lui brûle le front, ressent la peur de l'échec. Mais se l'interdit. Sa vie en dépend. Parler est un acte qui communique l'homme à son semblable. L'aliénation, c'est de ne pas pouvoir se dire à l'autre. Il impose un temps d'arrêt, troublant, obstiné, calculé. Sa voix éclate en cris, forme et déforme l'ordre des choses, brûle les sabliers, renvoie chez elle la fin du monde. Ses mots à la pointe effilée me coulent le long du dos, contiennent tout ce que je ne sais pas dire, les tabous, les interdits, les pulsions. Il parle du corps malade du monde. C'est une belle revanche quand la chiennerie devient poésie, quand un gavroche, deviens poète.
C'était Fernande Chouinard.
C'est un recueil qui m'a marqué. Qui a été, pas déterminant, mais qui m'a marqué. Parce que, pour toutes sortes de raisons.
Entre autres,
la plus, je pense que c'est ça, c'est un cri de révolte, c'est un cri... c'est un poète qui ose le dire. Donc, dire la révolte, dire la rage, dire la frustration, dire qu'il y a un problème, dire que c'est pas tout rose, et puis... Donc, la rage, c'est pas la défaite, c'est pas le récit de la déportation, c'est pas le, comment dire, la victime. Okay. C'est quelqu'un qui lutte, qui se bat, qui se présente, qui dit « Hey, on peut peut-être faire autre chose. »
Il n'y a pas juste Évangeline.
Il n'y a pas juste Évangeline, puis Évangeline était bien correct, mais c'est ça, ça prend aussi ça. Ça prend la révolte, quelque part.
Bonjour, je m'appelle Marc Arsenault et je suis poète. Critère, à mon avis, puis le fait qu'il y a beaucoup d'encre qui a coulé à l'égard de Critère, plusieurs sont d'accord. Hein, on apprend que Critère marque vraiment un moment charnier du passage sur le plan historique là, de l'Acadie, un peuple longuement opprimé. Hein, une époque où on peut passer d'une période de mutisme relatif vers une modernité, vers la parole, vers une émancipation. Puis ça, pour moi, quand on pense à l'histoire acadienne, je veux dire, c'est peut-être autant, c'est un peu aux antipodes de la déportation, parce que et c'est un moment très important, parce que le peuple, hein, à partir de Critère, dans cette époque, puis j'exclus personne, j'exclus pas le travail d'Antonine Maillet avec La Sagouine et ses romans préalables, ni Ronald Després, ni Léonard Forêt, qui publie à peu près le même temps, mais tout ce travail-là, mais vraiment Critère, par cette construction, c'est de silence à parole. Ça marque le moment charnier où par l'acte, je pense que Gérald Leblanc avait bien souligné dans ton film, le Cachot Complot, hein, que Raymond était le premier à passer à l'acte. Et ça, c'était un moment très, très important dans notre histoire collective comme Acadien. Je me souviens la première fois où j'ai entendu, donc vu Raymond Guy Leblanc lire de la poésie, c'était au printemps 1990, lors de la Nuit de Ventouse. Hein, c'était une soirée de poésie grandiose auquel je fus à 19 ans aussi invité à participer. Puis Leblanc, là, Raymond Guy Leblanc, entouré de musiciens, hein, souleva la salle avec sa lecture du poème, je pense que c'était le trigramme du cœur insondable, hein, dans lequel il répète « feel the beat, ma ». Puis tout le monde à la salle, hein, en cœur, répétait hein, « feel the beat, ma ». Puis je me disais « holy jeez, ce gars-là, cet homme-là, c'est quelque chose ». De ton cri, nous parlons toujours, de nos amours jusqu'à nos deuils, de nos tristesses jusqu'à nos joies, de nos colères jusqu'à notre béatitude, au cours de nos durs labeurs jusqu'à nos fêtes, nous affirmant haut et fort notre désir d'être en Acadie, en terre d'Amérique. De ton cri, nous chantons nos racines à l'échelle de la planète, de Paris jusqu'à Kinshasa, de Francfort jusqu'à Guadalajara. Nos musiciens sont des magiciens, nos poètes des chamans. nous inventant jusqu'à tard dans la nuit, comme des moines dans la cave, nos prophéties, nous les hurlant comme des loups, à la lune ou à une louve écartée, nous murmurant en réalité nos prières, issues de nos rêves les plus éveillés. Ne sommes-nous rien d'autre que des esclaves de cette force qui nous crée?
Une autre particularité historique, c'est ça, du recueil de Raymond-Guy Leblanc, c'est le fait que ce soit le premier, la première publication aux éditions d'Acadie, qui ont pendant plusieurs années, jusqu'en 98-2000, dans ce coin-là à peu près, qui, en fait, ça représente le début vraiment de l'édition francophone
en
Acadie, avec les éditions d'Acadie. C'est grâce à ce début-là, ça prend toujours un début, que le monde de l'édition en Acadie a pris vie. Ensuite, il y a eu Personnage aussi, Bouton d'or, toutes les autres maisons d'édition qui, encore aujourd'hui, produisent des livres et publient des livres. On peut retracer, en fait, le début de ces 50 ans de publication ou d'édition littéraire en Acadie avec la parution, justement, de ce recueil-là. Donc, un recueil qui apparemment est excellent. Je le saurai par moi-même quand je le lirai.
Oui.
Après me faire...
Ce soir.
Ce soir, absolument, ce soir.
Herménégilde Chiasson, artiste multidisciplinaire. Parce que Raymond avait décidé, et ça c'est Gérald qui m'a dit ça plus tard, que... il allait départager le monde. C'est-à-dire que lui, il allait être écrivain et moi, j'allais être artiste visuel. Et c'est vraiment étrange qu'il ait fait ça parce que Raymond, il dessinait vraiment bien. Il aurait pu faire carrière en art visuel. Je me souviens, il avait fait une œuvre de Vasarely, dans le style de Vasarely, que moi, je trouvais vraiment comme incroyable qu'il ait fait ça. Mais à un moment donné, c'est comme s'il avait dit « OK, on va pas marcher sur les pieds. Toi, tu fais les arts visuels. Moi, je vais faire l'écriture. » Le problème, c'est qu'au lancement de Raymond, il m'avait dit « Je sais que t'écris, puis ça serait intéressant que tu lises quelques-uns de tes textes. » Alors, je me souviens, c'était au Cube des Arts, le lancement, puis j'avais emmené deux textes, qui est « Eugénie Mélenchon » et « Les couleurs du drapeau ». Et j'ai lu le premier texte qui s'appelait « Eugénie Mélenchon » et là, ça m'a vraiment bouleversé parce que jusqu'à là, j'écrivais, mais c'était comme juste pour moi. Il n'y a personne d'autre qui avait lu ça, mais le fait de lire en public, le fait de publier quelque chose, ça m'avait vraiment ému que je n'avais pas lu le deuxième texte. Mais dans la salle, il y avait Pierre-André Arcan et... Pierre Leroux, qui m'ont dit « Toi, il faut que tu publies absolument. » Ils m'ont presque kidnappé. Ils m'ont dit « On va s'acheter de la bière, puis on va emmène tout ce que tu as écrit. » Et c'est comme ça que Mourir à Skudouk est né. Donc, en un sens, c'est la faute à Raymond si je suis devenu écrivain, parce que autrement, j'aurais continué à faire des arts visuels uniquement. La première rencontre. Une classe d'étudiants, les débuts de la modernité, la conscience d'un éveil, ne plus être seul au monde. Tous ces lieux et ces gens à voir, ces livres, ces idées, ces images, et avoir tant de choses à dire, se définir comme une voix, prendre la parole avec audace, avec fermeté, avec courage, voyager, écouter, apprendre, trouver les repères et les mots et la musique comme au début. Enfant prodige, artiste dans l'âme, vivre dans une ville telle un malaise. Cette ville et sa rivière qu'il va nommer. Cette rivière dont il suivra le cours. Cette rivière porteuse de mots nouveaux. Cette rivière lasse, lourde et lente. À l'image de ces gens dont il sera l'écho. Conscient de leur désarroi silencieux. Leur donnant l'espoir d'une dignité. Leur inspirant le courage d'être. Prenant réconfort dans ces mots.
Raymond, il venait aux lectures. Moi, je l'ai souvent vu comme pendant. Tu sais, il est souvent venu écouter, comme écouter lire. On a souvent participé à des mêmes lectures. Mm-hmm. Puis je sais pas, je le trouvais juste gentil, mm-hmm. une bonne personne. C'est là comme, c'est pas quelqu'un qui parlait pour rien dire, puis s'il avait rien dire, il disait rien, puis mais il était juste présent.
Rien dire quand on n'a rien à dire.
Ouais.
My God, il faudrait que je prenne certains. je me sens légèrement attaqué par rapport à ça.
Non, toi, c'est autre chose. Toi, c'est ton... Comment dire? C'est ton talent.
Je me souviens, à un moment donné, on avait lu collectivement là, une gang de poètes avec les païens au Festival de poésie à Trois-Rivières. Puis... dans les coulisses, hein, je me rappelle d'avoir vu Raymond pleurer. Puis, je lui ai demandé, ben, pourquoi? Il dit, Marthe, c'est tellement beau de nous voir ici. Puis ça, je savais que ça venait d'un homme qui avait vu qu'on était parti de rien à se voir acclamé, par les foules ailleurs, dans un cadre international.
Je savais que je voulais écrire quelque chose, proposer quelque chose pour ce numéro-là. J'ai été surpris et très heureux que ça soit accepté. Et que je voulais que ça ait quelque chose à voir avec la personne, pas seulement le poète, avec la personne, avec le musicien, parce que Raymond Guy jouait merveilleusement du piano et c'était une grosse partie de lui-même. Et avec le fait qu'il y avait au fond toute une époque qui tournait autour de ça. C'est d'ailleurs pour ça que c'est un peu l'histoire d'un western qui arrive dans quelque chose qui, si je ne me trompe pas, n'existe plus sous ce nom-là, qui était le bar Bows and Bells à l'hôtel Beau Séjour à Moncton. Je pense que le bar existe peut-être toujours, mais il a changé de nom. Et l'image m'est venue presque automatiquement en pensant à un film, je pense que c'était le titre du film d'ailleurs, qui s'appelait « Tirez pas sur le pianiste », un médiocre film policier, si je me souviens bien, avec Lino Ventura, ça devait même être un roman, mais je me suis dit, tiens, au fond, c'est ça, c'est qu'on va faire un western, en quelque sorte, avec Raymond Guy, dans le rôle, non pas du gars qui arrive en sortant son gun et en shootant tout le monde, mais qui arrive en disant, voilà, grâce à la poésie, grâce aux mots, je vais réussir à faire quelque chose que les autres n'ont pas toujours fait. Et ça s'est tout naturellement appelé le cri du tueur. Il est entré dans le bar Bows and Bells avec sa mèche rebelle. Son ceinturon noir portait en boucle le pavillon des broussards de Beau Soleil. Au début, certains avaient cru que c'était un drapeau sudiste et lui un petit gars de bicycle. C'était quoi ça, un rebelle acadien? Ça mangeait quoi l'hiver? Des pinottes? Du fricot? Des poutines râpées? Du gras? L'arbre ou l'écorce? Le pianiste lui-même était décontenancé. « Ne tirez pas sur moi !» s'écria-t-il. Enfin, pas tout à fait dans ces termes-là. Ce français-là, c'est le français policier des films. Il dit « Shoot-moi point, man !»« J'ai point de gun !» a rétorqué le révolutionnaire. « Je suis un tendre. Je n'aime pas voir le sang couler. Mes balles, ce sont les mots. Mon armurier, c'est les éditions d'Acadie. Mon arsenal, il est dans ma musette. » Dans mon cœur, dans ma tête, je vais vous pacter de mots, vous substantiver, vous adjectiver, vous faire parachoisir. L'heure du révolutionnement se cristallise. Il a mis sa casquette à la John Lennon. Avec sa main gauche, de la droite, il pianotait « Working Class Hero ». Avant de quitter le bar, il a dit « Allons nouveau, embrassez-vous sous le gui en mémoire de moi. » Et on a continué à chanter longtemps en mémoire de lui. moi, ce que j'aimais bien, c'était l'expérimentation verbale. Je trouvais ça vraiment, vraiment bien. Et je trouvais ça vraiment bien parce que pour moi, ça faisait partie du travail des quelques rares poètes en français qui ont été proches de la Beat Generation. Parce que la Beat Generation, on se souvient qu'il y avait ce point sur Kerouac qui avait tapé son roman sur un rouleau qui n'en finissait plus, etc., etc. Bon, c'était nouveau, c'était un nouveau style, c'était une nouvelle manière de fonctionner. Bon, Kerouac a fait bien d'autres choses que ça. Hein. Il a commencé aussi par un texte qui était écrit dans une langue vernaculaire qui était la langue des ghettos noirs des États-Unis. Donc, il faut faire attention de ne pas réduire un écrivain à une seule dimension. Raymond Guy, d'ailleurs, pas plus que les autres. Mais moi, j'aimais beaucoup ça parce qu'un certain nombre de poètes français avaient essayé ça. Et ça ne marchait pas beaucoup dans la poésie française, qui n'est pas très forte là-dessus. J'avais trouvé ça vraiment remarquable.
Il y a eu de la phase, disons, marxisante chez Raymond, que beaucoup aimaient, l'homme social, le travailleur social qui a travaillé auprès des pauvres et des soi-disant déportés du parc national de Kouchibouwa, qui a travaillé de très près avec ces gens-là. Il a travaillé de très près auprès des pêcheurs pour réclamer leurs droits. Donc ça, c'était, pour moi, c'est le travailleur social, très généreux en ce sens, pour pas juste les artistes, hein, pour les gens qui travaillaient la terre, pêchaient la mer, tu sais. Donc, il était très, très proche du peuple, en ce sens.
Il est venu chez moi en Nouvelle-Écosse à une époque. Il était très engagé dans un combat social, on dirait d'extrême gauche, je dirais même de groupuscule d'extrême gauche acadienne. Il distribuait des pamphlets, des brochures près de la track, près des rails au centre de Moncton.
Il y a vraiment dans ce numéro-là des nouveaux auteurs, je ne sais pas si c'est des nouveaux, mais des noms qu'on n'a pas vus très souvent. Il y a les classiques qui reviennent, qu'on connaît déjà. Mais moi, comme personnellement, Jerry Espada, je ne connaissais pas du tout. Amber O'Reilly non plus. Janice Durand à Fleury, je les connaissais pas.
Moi non plus.
Puis c'est surprenamment fascinant et intéressant, je pense, dans la sélection de textes, d'avoir des auteurs nouveaux, qu'on n'a pas seulement des vieux routiers ou des routiers qui once again, prennent une tribune.
Faut que je te dise que ça fait quand même une couple d'années que je rêve d'un futur simple. Un futur simple, puisque je pourrais juste être là à regarder les pissenlits s'ouvrir le matin, puis se fermer le soir. Puis entre les deux, je dirais allô aux abeilles, puis je les admirerai sans freak out, parce que vraiment, on sera pas mal happy à juste hang out d'une belle fleur ensoleillée à l'autre dans notre petit train-train quotidien. On s'inspirera, puis on buzzera, sans worry about la nouvelle réincarnation du glyphosate ou about le colony collapse disorder. Puis c'est pas parce qu'on sera des idiotes. On lira quand même les nouvelles, on écoutera les signes, puis on saura juste trop bien que l'heure du révolutionnement se cristallise et que stalactiquement, nos chances d'en sortir vivantes de cette myotique caverne seront still quasi autruche. Mais on se réveille quand même tous les matins, puis on s'informe, puis on care, puis on signe des pétitions. On fait même nos own pancartes pour aller marcher dans les protests. Mais le reste du temps, on chill, puis on fait ce qu'on aime. Parce que vraiment, grammaire ou pas grammaire, le plus important à chacun des plus petits minuscules moments du monde, c'est de savoir vivre un présent parfait. Et c'est pour ça que je m'appelle.
C'était Janice Durand.
Vraiment, là, ça devrait être une lecture obligatoire. Puis pour tout le monde, je dis ça comme dans les écoles, c'est ça, obligatoire au secondaire, dans les écoles, surtout les écoles acadiennes, comme au Nouveau-Brunswick puis en Nouvelle-Écosse.
Ah,
au moins ça. Ouais.
Ça, c'est horrible ici qu'ils fassent ça des fois. Je sais pas si c'est encore le cas, j'espère que ça change. Mais on faisait lire des romans en français à des étudiants, mais c'était des romans genre Mary Higgins Clark, traduits
en français. Traduits, c'est ça. Oui. C'est triste.
Ce qui est absolument...
C'est dommage. C'est complètement ignorer ce qui se passe sur le territoire. C'est inadmissible en 2023.
Et si j'avais un souhait, ce serait de dire... n'apprenons pas nécessairement dans nos écoles Victor Hugo ou Lamartine. C'était très, très bien, mais on est en 2023. Il y a des poètes en Acadie depuis un bon bout de temps. Apprenons Critère, apprenons des poèmes de poètes acadiens et apprenons-les parce que ça va donner non seulement cette continuité, mais également un moyen d'entendre la voix qui est la nôtre, plutôt que la voix de gens qui, au fond, n'ont plus grand-chose à voir avec nous, parce que, en plus, sincèrement, est-ce que quelqu'un sait comment parlait Victor Hugo? La réponse, c'est non.
J'y pensais dans les derniers mois, là. Est-ce qu'il y a un œuvre, puis je dis un, pas une, mais un œuvre, c'est-à-dire tout le travail de Raymond, là, qui peut... Tu sais, à quoi ça sert? Un, ce travail-là peut facilement... être lu dans d'autres pays, dans d'autres cultures et être compris. Et aussi, le travail de Raymond, tu sais, un jour, si j'enfantais un jeune poète, je dirais, tiens, t'es acadien et t'es jeune poète, je veux que tu lises Raymond Guy Leblanc. Parce que les jalons, il a compris les différents jalons d'un homme poète dans une culture comme la nôtre et toutes les émotions qui s'en suivent, tu sais, les grands amours, les grandes pertes, la mort, la renaissance, il y a tout mis cela dans ces textes, c'est tout chronique, c'est beau.
Mouillé jusqu'au mot. Une production de la Revue acadienne de création littéraire, Ancrage. Animation, Joël Boilard et Georgette Leblanc. Enregistrement, montage, mixage et matrissage, Jonathan Saunier. Musique, Jonathan Saunier, Christine Melançon et Alfa Romeo. Conception, Jean-Pierre Casey. Coordination, Rachel Dupéreau. Réalisation, Paul Bossé. Nous souhaitons remercier nos partenaires, sans qui ce balado n'aurait jamais vu l'air. Le Conseil des arts du Canada et le gouvernement du Nouveau-Brunswick.